Je n'ai pas envie de voir. Tu sais pas, mais je ne vais jamais m'épouser. Je me suis dit.
Bah, je sais pas.
Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de la crescent 2.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Wow.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Surtout si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut tes papiers, ton permis, quand ton alcoolémie et ton touchy. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes, trois moustachous dans une estafette. C'est quoi, c'est quoi ça?
C'est Camille l'info.
Radio Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio più ribelle.
Paniquez, paniquez tout. Attends, paniquez pas.
Bonsoir, bonsoir. Vous êtes sur Radio Canu, il est 19h01 et c'est l'heure du Canu Info. Et ce soir, de quoi va-t-on parler ?
Eh bien, on a la chance d'avoir dans nos studios des femmes iraniennes avec qui on commencera par faire un entretien sur la situation en Iran.
Après, on fera une petite pause musicale avec un groupe KLM.
Et ensuite, on vous parlera d'une grève au New York Times.
Puis au niveau du national, on vous parlera de l'État contre la liberté de la presse, des journalistes de Disclose et de Radio France convoqués à la DGSI.
Après, on parlera d'un procès des malfaiteurs de Bure et on fera un petit retour sur le procès en appel qui a eu lieu les 28, 29, 30 novembre à Nancy.
Et oui, et ensuite, ben, vous l'avez tous remarqué, en ce moment c'est la fête des Lumières, mais d'autres personnes sont un peu plus dans la galère. En tout cas, on vous parlera de 280 enfants sans toit dans la métropole lyonnaise, et il y a quand même 18 établissements scolaires occupés.
Et on finira par le traditionnel agenda,
puis notre ACAB.
Dans la rubrique internationale du Canu Info, on entend l'écho de lutte, on écoute des reportages insoupçonnés de manifestations à travers le monde, on évoque des thèmes variés comme le gaz de schiste
et d'exploitation de gisements de gaz de schiste,
les mouvements sociaux, les luttes et la France-Afrique. Bonne écoute dans la rubrique internationale.
Et aujourd'hui, c'est du côté de l'Iran qu'on va aller. Pour la première fois depuis le début des manifestations qui secouent le pays, l'Iran a exécuté hier, jeudi 8 décembre, un homme accusé d'avoir blessé un paramilitaire après avoir bloqué la circulation sur une avenue de Téhéran. Depuis le début du soulèvement, près de 18 000 personnes ont été interpellées, selon des organisations de défense des droits humains. Au moins 450 civils ont été tués dans les rues. Avant même le début des manifestations, la République islamique avait multiplié les exécutions capitales. Au moins 251 personnes condamnées ont été mises à mort entre le 1er janvier et le 30 juin 2022, selon des recherches menées par le centre Abdorraham Borouman pour les droits humains en Iran et Amnesty International, qui accuse, au cours du premier semestre 2022, les autorités iraniennes ont exécuté au moins une personne par jour en moyenne. En parallèle, mercredi 7 décembre, l'Iran entrait dans sa troisième journée de grève générale. Dans de nombreuses villes du pays, les rideaux de fer étaient baissés le long des rues commerçantes, tandis qu'aux abords des universités, les manifestations battaient leur plein. Les images diffusées sur les réseaux sociaux continuent d'être floutées, car l'enjeu est de taille, protéger les manifestantes et les manifestants qui apparaissent à l'image des représailles de la police des mœurs. Et on a appris dimanche dernier que le procureur général d'Iran avait annoncé la dissolution de cette instance chargée de veiller au respect de la loi islamique. Mais visiblement, la dissolution de cette police des mœurs, ça ne veut pas du tout dire la dissolution de la répression. Et du coup, pour parler de tout ça, on a la chance d'avoir en studio avec nous trois personnes pour nous parler de cette situation en Iran. Bonjour et bienvenue, merci d'être au Canut Info avec nous.
Bonjour.
Et ben, pour commencer, est-ce que vous voudriez rapidement vous présenter ou nous dire votre lien à l'Iran, pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour nous parler de l'Iran?
Oui, excusez-moi, je prends la parole. J'ai ce privilège d'être là, peut-être pour passer des messages, et je veux en profiter pour aller vraiment au but. Et nous ne connaissions pas très bien avant ce mouvement qui a pris cette ampleur depuis le mois de septembre, le 16 septembre. Et si je reviens en arrière, c'est que cette personne qui avait été arrêtée, Mahsa Amini, d'où tout ce mouvement est parti, c'est ce mouvement de la révolution iranienne qui est parti avec les femmes iraniennes qui sont bien audacieuses. Et c'était vraiment un crime aberrant parce que il y avait quelques mèches de cheveux qui dépassaient son foulard. Elle était très bien habillée avec avec le respect de cet régime islamique qui nous ont imposé. Et elle a été arrêtée pour ça. Après, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et simplement, ils ont rendu à la famille, deux jours après, le cadavre de Mahsa Amini dans le coma. Et après, voilà, elle était décédée. Mais ils disent qu'ils n'ont rien fait. Simplement, ils l'ont interrogée. Mais on sait, c'est d'où c'est parti ce mouvement. Parce qu'on sait très bien comment ils se comportent avec les femmes. Ça veut dire avec les personnes qui ne respectent pas leurs lois. Et malheureusement, ils l'ont battu dans la... Il y a eu des témoignages qu'ils l'ont battu dans la voiture, dans une van où ils l'ont arrêté. Et ils l'ont battu sur la tête. Et c'est comme ça qu'elle était dans le coma. Elle a eu des problèmes. Voilà. Et ils disent qu'elle était malade. Elle avait une maladie depuis la naissance, malformation. Et... c'est ça, c'est pour ça tous ces mensonges qu'ils ont inventés depuis 44 ans bientôt. Et je crois que ces jeunes qui ne peuvent plus supporter ces mensonges et cette maltraitance par rapport aux femmes et au peuple iranien en général, ils peuvent plus rester en silence, ils peuvent plus se taire. Et ils sont très très courageux parce que tous les jours ils vont se manifester et ils savent très bien ce qui leur attend. Il y a les balles réelles qui les attendent dans la rue. Et voilà, quand ils sont arrêtés, il y a 16 000 personnes qui sont arrêtées, peut-être que vous allez revenir dessus, mais il y a 16 000 personnes qui sont arrêtées, mais dans les prisons, et ils les menacent, ils sont menacés d'exécution. Et voilà, hier, il y avait le premier parmi tout ça. Ils exécutent tous les jours par pendaison des personnes, mais c'était le symbole, c'était très très symbolique qu'ils exécutent un des jeunes qu'ils avaient arrêté depuis que le mouvement a été commencé. Et là, j'ai le privilège d'avoir deux autres amis ici. Il y a une amie qui est là, qui peut très bien parler, mais elle parle pas très bien le français. Mais elle connaît très très bien la situation en Iran. Elle va me dire les choses qu'elle a envie de dire pour passer le message. Et je peux traduire, parce que moi je parle le français, peut-être il y a plein de choses dont je ne suis pas au courant, même si depuis 3 mois on est tous suspendus à nos portables et à nos réseaux sociaux, parce qu'il y a des images que nous on voit et vous ne voyez pas malheureusement. Pour pouvoir passer les messages et être la voix des personnes qui sont dans la rue en Iran.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Bahor, je suis contente, mais aujourd'hui cette situation en Iran c'est mauvais, très dangereux pour les femmes. Excusez-moi, pour les dangereuses situations en Iran après la mort de Mahsa Amini. Alors, Mahsa Amini est une jeune femme, elle est 22 ans, elle est étudiante aussi, elle est très très intelligente et malheureusement à cause du régime république islamique, elle est morte. Mais situation en Iran, après la mort, le coupé en Internet, il a beaucoup de frappés dans la rue pour les personnes iraniennes, les violences, les femmes, les hommes, les enfants aussi. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans la rue, il a beaucoup de violences frappées les policiers en Iran. Mais je suis très, très triste, mais je continue avec madame.
Oui, c'est que ce qui s'est passé, il y a eu au moins 500 personnes qui sont décédées pendant ces manifestations. Les manifestants qui ont été décédés par les balles réelles directement. Et là, quand ils ont arrêté les personnes qu'ils pouvaient arrêter, et ils leur reprochent d'avoir tué les soldats de la régime islamique qui étaient là en train de les battre. On a énormément d'images de violence avec les manifestants. Mais tout ça, c'est vraiment rien du tout. Mais dès qu'ils voient que ces personnes-là se défendent, cette personne s'était défendue et ils l'ont interrogé et ils l'ont exécuté hier. Et sans avoir d'avocat, il n'y a pas le droit à avoir un avocat ou quelqu'un qui les défend. Ils font tout ce qu'ils veulent, ils peuvent leur coller n'importe quelle accusation, il n'y a personne pour les défendre. Et après, ils les exécutent. Et nous, notre message, c'est vraiment faire quelque chose pour arrêter ces exécutions. Parce que c'est vraiment ce qui... On a peur qu'ils exécutent toutes les personnes qui sont en prison. Maintenant, 16 000 personnes, ils risquent l'exécution.
Et pour essayer de se rendre compte quotidiennement comment ça se passe en Iran, est-ce que les manifestations, elles sont quotidiennes? Est-ce qu'elles peuvent s'exprimer? Est-ce que le rejet du gouvernement islamique, il peut s'exprimer aussi par autre chose que des manifestations? Peut-être par, j'en sais rien, des fermetures de magasins ou des refus de participer à certaines choses. Est-ce que vous pouvez essayer de nous relater qu'est-ce qui se passe au quotidien, peut-être qui est plus difficile à saisir?
Oui, merci beaucoup de me le rappeler. Il y a eu énormément de mouvements, de grèves. Ça veut dire de fermer toutes les commerces sont fermés. Là, la dernière fois, pendant 3 jours consécutifs, ils ont fermé. Et là, ils vont recommencer. Après l'exécution de ce jeune homme, ils vont recommencer à partir de demain de tout fermer. Il y aura, toutes les commerces seront fermés. Mais malheureusement, ce régime continue à exécuter, à tuer les gens. Il n'y a rien qui les arrête. Et la première chose qu'il faut faire, c'est de fermer les ambassades. À notre avis, il faut faire des actions vraiment frappantes. Ce qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant.
Et vous, du coup, au quotidien, comment vous avez des informations de l'Iran? Est-ce que les informations, elles circulent? Est-ce qu'au sein de l'Iran, c'est possible de communiquer par différents moyens?
Malgré la coupure d'Internet, il y a toujours des personnes qui arrivent à nous envoyer les images. Et surtout, il y a des journalistes qui les reçoivent. Parce que il y a des vous savez, on a toujours été tellement débrouillardes. Et on a appris comment faire sans avoir l'Internet et acheter des produits qui pouvaient nous fournir l'Internet pendant 2 heures. C'est qui est le cas en Iran. Et nous, on reçoit ces images-là, heureusement, jusqu'à maintenant, par des personnes qui filment dans la rue les situations réelles. Et il y a des journalistes comme Armin Arefi, qui est très très active, ou Golshifteh Farahani, qui est une actrice très très connue. Il y en a plein, des personnes comme ça, Marjan Satrapi. Tous les jours, elles sont en train de mettre, ils sont en train de mettre sur leur page Instagram ou Facebook la situation réelle à l'instant, ce qui arrive en Iran. Et je les remercie vraiment. Et comme ça, on est au courant. Mais mais on se sent vraiment impuissant. Impuissant parce qu'il y a les images qu'on voit, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire, on est très très frustré et très très mal.
Est-ce que c'est possible aujourd'hui de partir d'Iran ou d'y revenir ?
Oui. Oui, c'est possible. Mais vous savez que si vous partez en Iran maintenant, pendant au moins 3 jours, on vous arrête à l'aéroport même pour tout vérifier sur votre portable, si vous avez fait, si vous avez publié des choses sur votre page ou vous avez soutenu ce mouvement. Il faut aller sans le portable ou voilà. Mais ils savent tout, alors ils peuvent vous arrêter à chaque moment en Iran. On peut y aller, mais après on sait pas revenir.
Vous disiez fermer les ambassades, c'est quoi les réponses internationales? Parce que j'ai l'impression que là, c'est un pays qui est extrêmement répressif avec des horreurs qui sont vécues chaque jour par les habitants et les habitantes. Et il n'y a pas de réponse internationale à cette question.
Non, pas assez frappante. Il y a eu des réponses. Il y a eu M. Macron qui a reçu 4 femmes vraiment très activistes. C'était très, très important, cette image. Mais ce n'était pas la réponse. C'est vrai que depuis ces images-là, en Iran, M. Macron, il y a plein de caricatures. Et ils aimaient beaucoup M. Macron parce qu'il avait serré la main de M. Raisi à l'ONU. Et c'est pour nous, c'était vraiment incroyable. C'est pas possible. Pourquoi on reconnaît ce régime
Raisi, du coup, qui est le président de la
République islamique en Iran. Et cette image-là, c'était très très mal pour nous. On l'a très très mal senti. Mais après, il a reçu ces femmes-là. Mais c'est pas du tout. C'est très bien, mais c'est pas la réponse. L'Iran continue parce qu'il y a ces ambassades. Toujours, ils sont toujours là, ils ouvrent des comptes en banque partout dans le monde. C'est ça qu'il faut arrêter. Ils sont partout, au Canada, aux États-Unis et en France. Ils sont là librement, ils sont en train de circuler.
J'ai l'impression que dans les manifestations lyonnaises, qui ont été nombreuses, hein, plusieurs samedis, notamment place Bellecour, en soutien du coup. À ce qu'on a appelé la révolution iranienne, en tout cas en soutien à la résistance iranienne. On a beaucoup vu le slogan « Femme, vie, liberté ».
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ?
Femme, vie, liberté, ça vient... femme, ça veut dire... femme... parce que le premier slogan... Depuis le décès de Mahsa Amini, c'était ça. C'était en kurde, parce que cette fille était une fille kurde. Et c'était le premier slogan qu'on a vu sur les murs, même sur sa tombe, c'était marqué ça en kurde. Et c'est pour ça que tout est parti. C'est devenu le slogan de cette révolution féminine iranienne. Et il y avait la chanson, je crois que pas tout le monde l'a entendu, la chanson de Shervin, qui est devenue maintenant, on va dire, l'hymne de cette révolution. Baraye, ça veut dire pour, et il a tout très 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 bien expliqué. Et nous, on essaye de manifester tous les samedis à Lyon, à Paris, partout en France. Et il y a cette chanson qui accompagne toutes les manifestations et c'est une chanson magnifique qui explique très bien la situation.
Aujourd'hui, les revendications, c'est le renversement du régime.
Ah oui, absolument. Quand vous avez parlé que le régime a annoncé qu'ils arrêtaient la police des mœurs, c'était ridicule pour nous. Et on a fait comprendre à tous mes amis qui étaient contents pour moi, mes amis français qui étaient contents pour moi. J'ai dit non, parce que ça, c'est une stratégie de cette régime qui sait très bien ce qu'il fait. Parce que pour réformer, nous, on ne veut pas de réforme. On veut la révolution. Ils sont partis pour une révolution. Moi, je suis là, je parle, je suis leur voix, je ne fais rien. Mais c'est eux qui vont, les jeunes qui vont devant les balles, qui se font tuer. Ils n'ont peur de rien. Ils veulent qu'il y ait la liberté en Iran avec la révolution. C'est une révolution des femmes. Ça a commencé avec des femmes. Et nous, on a voulu, excusez-moi, c'est une parenthèse, on a voulu à notre équipe de foot qui a été au Qatar pour ne pas soutenir autant que les femmes qui étaient les champions de d'escalade et tout ça. Ils ont enlevé leur voile, les femmes ont osé enlever leur voile. Elles rentraient en Iran, elles savaient ce qu'elles attendaient, leur famille et elles, la punition, le châtiment qu'ils attendaient, elles ont passé le message. Il y a eu plein de championnes comme ça, mais cette équipe du foot, ils n'ont pas été soutenus par le peuple iranien. C'est vraiment bizarre, mais je vous explique que quand ils ont perdu au Qatar, il y a eu la fête en Iran parce qu'ils étaient avec le régime iranien. Et à ce point-là, ne pas soutenir son équipe de foot parce qu'ils étaient avec le régime.
Aujourd'hui, comment on peut faire pour s'informer si on n'a pas les réseaux sociaux ou les images que vous avez ?
Il y a eu énormément d'émissions à la télé depuis tous les jours maintenant, on voit une émission consacrée à l'Iran, heureusement. Et je vous dis, avec les journalistes comme Armin Arefi, il y a Sarah Doraghi, qui est journaliste sur France 2, où toutes ces émissions-là, c'est pour informer les Français, sensibiliser les Français. Nous, on fait pas mal de mouvements aussi, d'actions. On essaye de faire beaucoup d'actions, c'est simplement pour faire entendre, passer ce message aux Français et sensibiliser les Français.
Je propose que, si tu veux, Bahor, tu peux parler en persan et j'essaye de traduire ce que tu dis.
Oui, c'est ce que je vais proposer.
با سلام و درود و شب بخیر خدمت همه شما عزیزان. شرایطی که در حال حاضر هستیم شرایط قشنگ و زیبایی نیست برای مردم کشورم. مردم عزیز کشورم بسیار تحت شرایط بغرنج و بسیار ناراحت کننده ای هستند. از این رو من و عزیزانم کنار شما امشب اومدیم تا با هم دیگه یک صدا برای ایران بخوانیم و برای ایران زن زندگی آزادی را بگوییم. فم ویف لیبرته. و از این رو برای این که برای حق دفاع مطلوب برای زنان، برای مردان، برای بچه ها، برای ایران عزیزم خواست دارم.
Aujourd'hui, tout est noir en Iran. Elle dit qu'elle est très heureuse d'être ici et très honorée. Elle dit qu'en ce moment, en Iran, il n'y a qu'un seul cri, un seul cri commun qui est « Femme, vive, liberté !» et que c'est à la fois les hommes, les femmes et les enfants qui se battent. Voilà, que c'est très dur et il y a beaucoup d'émotions par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que j'ai oubliées.
Non, voilà, elle se sent heureuse d'être là pour s'exprimer et être la voix des personnes qui sont en Iran. Et parce que vraiment, nos compatriotes en Iran passent des jours très, très, très noirs. Et on est de tout cœur avec eux et on fait tout ce qui est dans notre pouvoir pour les aider.
امشب به این خاطر دور هم جمع شدیم که صحبت کنیم در مورد کشتارهای دست جمعی در پناهگاه‌هایی در زندان اوین. من امشب اومدم با یک صدای رسا و با یک صدای بلند برای ایرانم، برای مردم سرزمینم، برای وطنم. درست که من از ایران خارج شدم، ولی هیچ وقت وطن از من نرفت و نخواهد رفت و من امشب اومدم صدای تمام زندانی های بی صدا باشم، تمام مادرانی که فرزندشون رو از دست دادن و تمام کسانی که در این حکومت ضد زن و حکومت اسلامی که باعث شده تمام مردان سرزمینم، تمام زنان سرزمینم، تمام بچه های سرزمینم زیر رنج و عذاب این کشور و حکومت اسلامی باشند، برای آنها یک صدا بخوانم: زن زندگی آزادی. فم ویف لیبرته.
Aujourd'hui, il n'y a qu'un seul cri commun, femme, vie, liberté, pour toutes les mères qui ont perdu leurs enfants, pour tous les hommes qui se font tuer, pour tous les enfants qui n'ont aucun avenir en Iran. Il y avait eu la prison d'Evin qui a brûlé aussi, avec sans qu'on sache pourquoi, et des tonnes de gens qui sont juste disparus en fumée. il n'y a qu'un seul cri commun et la seule chose importante, c'est femme, vie, liberté. Beaucoup de gens se font tuer tous les jours à balles réelles. Et je ne sais pas si j'ai oublié des choses, du coup...
Non, c'est très bien.
Je voulais juste dire aussi que... ouais, désolée, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est une révolution historique, il me semble, parce que c'est la première révolution menée entièrement par des femmes. Il y a déjà eu les suffragettes, mais là, en fait, les femmes, elles risquent leur vie tous les jours. Elles se font tuer à balles réelles dans la rue, juste parce qu'elles vont dans la rue. C'est historique. Et en fait, c'est important de continuer ce mouvement, même dans, au niveau de nos états d'esprit, dans la vie de tous les jours, qu'on soit en France ou dans d'autres pays, parce qu'en fait, c'est juste que la... liberté et la vie ont un prix. Et c'est juste qu'en France, on ne s'en rend pas forcément compte, mais en fait, c'est le cas. Ça a un prix et il est en train de, d'être en cours.
و به قول معروف شاعر عزیز کشورم چو ایران نباشد تن من مباد.
S'il n'y a pas l'Iran, je ne peux pas exister. C'est vrai qu'il y a eu un slogan aussi qu'on a, on a vraiment adoré. Moi, je suis partie d'Iran, mais l'Iran n'est jamais parti de mon cœur. C'est, ça existe toujours dans mon cœur. Et je vis pour l'Iran. Ça, c'est vraiment notre voix.
Et elle ne, la personne qui a parlé dit qu'il est impossible pour elle de retourner en Iran. Parce que si elle y retourne, elle risque sa vie. Parce qu'elle a... comme tout le monde ici, on a manifesté ensemble et si, c'est pas possible de retourner alors qu'il y a sa famille et sa mère là-bas.
Merci beaucoup pour ces témoignages qui sont vraiment importants et qu'on espère qu'ils continueront à être relayés. Et peut-être pour les relayer de manière d'autant plus forte, est-ce que vous pouvez nous dire comment se mobiliser avec vous à Lyon et participer aussi à vos revendications, en tout cas à les soutenir?
On essaye de faire énormément d'actions, mais ce n'est pas facile parce qu'il faut réunir les personnes. Là, déjà, on a prévu un programme pour le 7 janvier avec, avec l'association
Regarde Femmes.
Et on va inviter... je crois que là, la capacité d'une salle qu'on a, c'est pour une centaine de personnes, pour présenter des vidéos, inviter des journalistes et présenter ce qui se passe réellement en Iran, et encore pour sensibiliser les Français, parce que les Iraniens savent ce qui se passe en Iran. Et là, voilà, cette action-là, je crois qu'il y en a plein d'autres, mais ce n'est pas encore concrétisé. Mais ces mouvements de manifestation, tous les samedis, on essaye de les maintenir de 15h à 17h à Lyon. Mais aussi ce programme qu'on est en train de réaliser pour le 7 janvier, vous allez avoir... ample information bientôt. Et merci à vous.
Juste, c'est de 15h à 18h à la mairie du 6e arrondissement le 7 janvier.
Merci beaucoup. On ne manquera pas d'en reparler début janvier pour le coup, pour relayer votre événement. Vraiment, merci beaucoup à vous d'être venus dans nos studios et que dire qu'on espère que cette révolution, elle va tenir et que ce gouvernement, il va être renversé.
Elle va tenir et elle va impacter le monde entier.
Oui, oui. Merci à vous de nous recevoir.
Merci beaucoup.
La justice, je vous adresse selon verset. J'ai des choses à vous dire, je ne fête pas votre anniversaire. Vous êtes morte, à mes yeux et pour tant d'autres. Votre clé n'a plus de porte, sauf pour jeter des gens en tôle. 2018, sombre époque où l'injustice a pris votre rôle. Pourquoi ? Plus de 100 pays ou un PIB plus bas que la fortune du PDG d'Amazon. Expliquez-moi l'opération Triton. Ou comment l'Europe cautionne que des milliers de migrants meurent de soif sur des bateaux pendant ce temps. D'autres dépensent des millions et au pays des droits de l'homme. On chape, touche pas à mon poste. Plutôt que se poser des questions, y'aurait pas un truc qui déconne pour accueillir la coupe du monde. Normal de but et les plus pauvres. Bientôt, l'amour du sport signera la mort des autres. Voilà le subtil paradoxe où le parasite est à son comble, où le plaisir n'est de l'atroce pendant qu'on nous prend pour des cons. Le boycott inutile, l'achat l'emporte sur la raison. C'est bave si les assiettes sont vides, y'a une télé à la maison. Quand certains font des caprices, les miens veulent juste voir l'horizon. Genou à terre comme Capernic, j'attends le retour de la bonne saison. Mais qu'est-ce qui vous panique? Comptez-vous passer à l'action? Ici je communique, je n'écris pas d'actes d'accusation. J'aimerais comprendre ce qui vous pousse à cacher votre position. Nos vies vous touchent, ressentez-vous des émotions? Une peine de 30 ans ferme pour avoir fait une fausse couche. Vous trouvez ça juste? Un petit avec une main en moins, car il a volé de la boue. Vous trouvez ça juste? Qu'on frappe, qu'on viole, qu'on tue des femmes et des enfants, qu'on manque de profs et d'aides-soignants, qu'on meurt d'une balle perdue. Mauvais endroit, mauvais moment, vous trouvez ça juste? Qu'on fonde l'islam et des truands, qu'on fasse la course aux armements. Vous trouvez ça juste? Vous êtes censé être la 40, combien d'illettrés, d'endettés, de demandeurs d'asile? Combien de SDF, de tentatives de suicide? Combien de prises d'otages, de cancers, de choléra? Combien de gens qui crèvent de faim? Combien? Je ne compte pas, madame. Si c'était vous dans ce cas-là, n'auriez-vous pas fait un scandale? Notre vie n'est-elle qu'une tour de capla qu'on casse pour le plaisir du vacarme? Vous mangez pas de ce pain-là, mais vous ancrez, c'est les écarts et vous étouffez les alarmes. Pas de crime, pas de coupable, Majazi et des Bouna. Police au-dessus des lois, un ministère pour Benalla. Pas de procès pour le clan Benali. Mort suspect pour Adama, la tôle pour Aïta Mimi. Puis tous ceux qu'on citera pas, victimes d'un système, d'un pays ou de parents qui n'en sont pas. En nous laissant sur cette voie-là, où piocher l'envie de vivre, l'envie de se battre, l'envie de dire pour trouver l'issue du cauchemar. Pas besoin que ça soit facile, tant que vous faites partie de moi. Là, une cour dans les manifs, la répression agit au calme. Bienvenue au cœur de la bataille, où vous sombrez dans l'oubli. L'espoir de vous revoir s'estompe à la manière d'un vieux souvenir, puisque notre défense repose sur le prix de l'avocat. Alors ok, pour le karma je l'accepterai sans faire de détails. Je veux bien que tout ait un sens, mais je peux pas faire votre travail. Je bataille déjà dans mes schémas, vous savez pas saisir votre chance. Je vous invite, venez chez moi, on refera pencher la balance. On renversera l'avalanche, on est tous un peu de Jedi. Justice à six vitesses, moi je ne cherche que mon essence. Alors à quand la renaissance? Vous devriez fermer vos failles. Qu'avez-vous fait de votre âme? Je ne vois que votre absence. Alors nous traitez pas de l'ASCA, nous on assume nos faux pas. On les regarde bien en face et on refuse qu'ils mènent la danse. Le jour où il sera trop tard, vous ne pourrez que vous en vouloir. Rentrez donc des Bahamas, vous avez pris trop de vacances. Madame la justice, j'espère que vous lirez cette lettre. Si vous avez le temps, j'y ai mis la forme et mon être. Et pour être vraiment honnête, je n'attends aucun changement. Je ne compte que sur moi-même, cordialement, KLM.
Alors, on a écouté un morceau d'une rappeuse lyonnaise qui s'appelle KLM et son morceau, c'était Madame la Justice. Alors maintenant, on va parler de grève. Et où, aux États-Unis et c'était le fameux New York Times. En fait, il y a eu pas moins de 1100 travailleurs et travailleuses et journalistes qui se sont mis en grève ce jeudi pour 24 heures, donc hier. Et apparemment, c'est la première fois que ça arrive depuis 40 ans. Et ce, parce que malgré 20 mois de négociations avec le syndicat, qui s'appelle The News Guild of New York, l'entreprise continue de refuser d'accepter les revendications d'augmentation salariale et les prestations de santé et de retraite. Certains écrivains et certaines écrivaines et rédacteurs, rédactrices en chef et d'autres membres du syndicat ont carrément soulevé qu'ils et elles avaient même des contrats expirés depuis mars 2021 et que les négociations ne font que traîner depuis. Et un bon nombre d'entre elles et eux dénoncent aussi des conditions de travail qui se sont empirées depuis le Covid, avec des heures sup le week-end, le soir. Et donc, c'est 1100 employés qui ont signé un engagement de grève à minuit de jeudi, donc hier, selon le communiqué du syndicat. Et ils n'ont pas réussi à trouver un accord entre ce syndicat et l'entreprise. Qui réclament donc des meilleurs salaires, mais aussi, donc, comme on l'a dit, une couverture de santé, la retraite, dans un pays quand même où la santé et la retraite sont entre des mains privées. Le dernier cycle des négociations a eu lieu mardi et une partie de mercredi dernier, et c'est dans la nuit du mercredi que le syndicat a déclaré sur Twitter qu'il n'y avait aucun accord qui avait été trouvé. Après, dans un autre tweet, ils ont assuré qu'il s'agissait de la grève la plus importante des travailleurs et travailleuses des journalistes du New York Times depuis 40 ans. L'entreprise a carrément tenté de licencier des travailleurs comme inflexibles pour avoir appelé à la grève. Mais le syndicat a répondu que par des déclarations soulignant que les 20 mois de négociations n'ont pas du tout donné, rien donné, et que les manœuvres de l'entreprise pour ne pas négocier les améliorations de conditions de travail et de salaire, enfin ils ont du coup souligné ça en fait, qu'il n'y a pas vraiment une négociation pour améliorer les conditions de travail, de salaire, et que la précarité restait de mise pour les travailleurs de la presse. Il y a même d'autres syndicats, comme les syndicats des camionneurs, apparemment ce serait The Masters, qui se sont montrés solidaires des travailleurs du New York Times. Alors, en plus d'être historique, la grève des travailleurs donc au New York Times, c'est aussi un gros exemple parce que c'est un média emblématique à travers le monde. Enfin, le New York Times, c'est quand même... Enfin voilà, on connaît quoi, c'est pas rien. C'est le New York Times. Et aussi parce que la presse, ça, quand même, ça souffre de précarité quand même, enfin, pour beaucoup de travailleurs, travailleuses dans ce domaine-là. Et ensuite aussi, avec la forte utilisation des réseaux sociaux et les nouvelles technologies, ben, les tâches des journalistes, elles se sont multipliées. Et en même temps que les entreprises des médias commençaient à se passer de personnel fixe, et plutôt en embauchant des stagiaires, des contrats précaires ou encore même des auto-entrepreneurs, entrepreneuses qui sont payés à l'article. Bah, du coup, tout ça, ça implique qu'il n'y ait pas de sécurité, enfin, que en tout cas les emplois ne soient pas... qu'il n'y ait pas de sécurité en termes de prestations de santé, de retraite, les heures supplémentaires, etc. Et il faut rappeler que l'entreprise, enfin, c'est pas le rappeler, mais le dire, que l'entreprise, elle a fait un chiffre d'affaires de 547 millions de dollars en 2022 contre 509 millions en 2021. Et ça, ben, grâce aux travailleurs et travailleuses. Et du coup, il semblerait que l'entreprise n'allait pas trouver dans sa recette de quoi augmenter les salaires et donner des meilleures conditions de travail à ses salariés. Alors cette grève, elle s'inscrit dans le cadre de pas mal de grèves en fait aux États-Unis. Il y a tout un secteur emmené par la jeunesse qui serait connu sous le nom de Génération U pour Union, donc syndicat. Et aussi des travailleurs et travailleuses d'entreprises comme Amazon, Starbucks, qui mènent actuellement un fort combat pour l'organisation et la syndicalisation des personnes qui y travaillent. Donc la grève du New York Times rejoigne aussi ces grèves-là, ainsi que les grèves des enseignants, enseignantes, infirmières, cheminots. D'ailleurs, la grève des cheminots qui apparemment s'apprêtait à déclencher une grosse paralysie dans le pays, qui bloquerait l'économie du pays, mais que ça a été stoppé par un ordre de Biden et un vote au Congrès, promu par les représentants du Parti démocrate. Donc a priori, c'est ceux qui sont censés être plus à gauche d'ailleurs, mais bon, voilà. Qui leur a interdit carrément le droit de grève et les a obligés à accepter un accord qui ne reprenait pas leurs revendications, et notamment les congés maladie payés. Donc bon, bah, concernant le New York Times, on leur souhaite une longue grève et à voir si elle se poursuit au-delà des 24 heures, à voir si ça se termine ce soir à minuit ou pas, donc affaire à suivre.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a d'un côté un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Et on reste du côté de la presse et du côté national sur le côté de la liberté de la presse. Parce que pour avoir enquêté sur des contrats passés entre l'armée et des entreprises privées, le cofondateur de Disclose et deux journalistes de Radio France sont convoqués par les services de renseignement intérieur français. Je ne sais pas si vous faites attention, mais ces derniers temps, on vous parle de plus en plus quand même comme ça de convocation de journalistes par la DGSI ou de censure sur les médias, et si vous en parlez, parce que c'est quand même de plus en plus inquiétant. Alors, pour reprendre cette affaire-là, on s'est un peu posé la question, est-ce qu'il est encore possible d'enquêter sur l'armée française ou non ? La question se pose alors que le journaliste et cofondateur de Disclose, Geoffroy Livolzi, ainsi que ses confrères de Radio France, Benoît Colomba et Jacques Monin, sont convoqués mercredi 14 décembre, donc la semaine prochaine, par les policiers de la section des atteintes au secret de la Défense nationale et la Direction générale de la sécurité intérieure. Vous auriez bien sûr reconnu la DGSI. Les autorités leur reprochent d'avoir publié, en mars 2018, des informations sur des faits de favoritisme dans des marchés publics au sein du ministère des Armées. L'enquête publiée sur France Inter dévoilait, document à l'appui, que plusieurs hauts gradés avaient favorisé des sociétés privées dans l'attribution de contrats de transport militaire. Et ce, pendant plusieurs années, notamment dans le cadre de l'opération Barkhane au Sahel. Ces informations étaient et restent d'intérêt public. Elles font même l'objet d'une enquête du parquet national financier pour favoritisme et trafic d'influence depuis 2017. Cette convocation, sous le statut d'audition libre, s'inscrit dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par un magistrat. Elle intervient près de 5 ans après la publication de l'enquête sur France Inter. Déclenchée en 2021, la procédure vise directement les journalistes pour avoir révélé l'identité d'un membre d'une unité des forces spéciales. Dans les faits, le haut gradé évoqué dans l'enquête n'est pas en mission sur des terrains de conflit, mais travaille au sein des bureaux de l'état-major dans les services de logistique. Donc, pour résumer, pour avoir dévoilé le nom du militaire, les trois journalistes sont passibles d'une peine de 5 ans de prison et de 75 000 euros d'amende. Alors que les trois journalistes n'ont jamais eu connaissance depuis mars 2018 qu'une enquête judiciaire les visait, eux et leurs sources, ces convocations constituent une énième atteinte à la liberté de la presse et un inquiétant précédent pour les journalistes enquêtant sur l'armée. Non mais c'est fou, en fait t'as l'impression que dès que tu dis un truc maintenant, bah, tu peux être... Oh, on vous convoque. Oui, c'est vraiment de l'intimidation sur les médias et j'ai l'impression que chaque semaine on pourrait avoir une rubrique intimidation des médias.
Canu Info du vendredi.
Car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus. Comme tu m'éclaires au nucléaire, j'ai le ciel bleu. Tu me ramènes quand je déraille un jour sur deux.
Radio Canu 102.2.
Et oui, on va vous donner quelques nouvelles d'un procès qu'on vous avait annoncé il y a 15 jours à peu près. Donc un procès qui se tenait à Nancy, donc les 28, 29 et 30 novembre. Ça concernait une manifestation, enfin 7 personnes qui étaient accusées d'être des malfaiteurs. pour lier à une manifestation non déclarée en préfecture, donc qui a eu lieu le 15 août 2017 à Bure. Donc il y a eu un premier procès qui s'est tenu les 1, 2 et 3 juin en 2021 à Bar-le-Duc. Et en fait, donc les personnes ont fait appel. Et donc, il y a eu un second procès qui a eu lieu donc, les 28, 29, 30 novembre. Alors, l'appel du procès pour association de malfaiteurs de Bure a commencé par un heureux coup de théâtre. Puisqu'au premier jour du procès, le lundi matin donc, juste avant le début de l'audience, on apprend que l'accusation d'association de malfaiteurs était définitivement abandonnée. Toutes les personnes ne seraient pas jugées sur ce chef d'accusation. Donc ça, c'était la grosse angoisse de refaire un procès là-dessus, puisque c'était un peu l'enjeu de ne pas se récupérer d'être accusé d'association de malfaiteurs. Donc depuis plus d'un an, ces personnes-là pensaient que cet appel serait un remake, donc ce procès, de celui de Bar-le-Duc, et qu'elle serait jugée de nouveau pour association de malfaiteurs. Mais non, le procès ne portera pas là-dessus. Et en réalité, le parquet de Bar-le-Duc n'avait pas fait appel à Général à ce propos. Alors, sur le plan judiciaire, il y a toujours ce truc-là en toile de fond quand même d'association de malfaiteurs. C'est ce que ces personnes là disent. C'était bien présent tout au long de la journée et des journées et demie d'audience. tant dans les réquisitions bancales de l'avocate générale que dans les plaidoiries des avocats de ces personnes qui ne pouvaient pas ne pas évoquer ces années d'instruction. Burr n'est pas une association de malfaiteurs, mais a été considérée comme telle durant plusieurs années par l'appareil judiciaire. Les stigmates restent et le souvenir de cette période imprime chaque prise de parole. Et c'est bien l'ouverture de cette information judiciaire par ce chef qui a servi de prétexte à la débauche de moyens financiers et matériels destinés à accumuler un maximum de données sur l'opposition à CIGEO, parce qu'il y a eu un dossier absolument monstrueux dans cette affaire, avec des surveillances complètement folles, donc c'est vraiment des moyens déployés complètement fous, quoi. Donc, pour preuve, la prétendue association de malfaiteurs donc, est encore incrustée dans la prétendue association de malfaiteurs est encore incrustée dans les esprits, c'est que l'avocate générale a quand même requis des peines de prison ferme et du sursis pour les chefs d'accusation restant à l'issue d'un discours plus qu'approximatif et un manque de rigueur regrettable. Donc, alors, je vous donne les chefs d'inculpation la réquisition, en fait, qu'il y a eu. Donc, il y a eu deux personnes qui sont pris 8 mois de sursis, deux personnes qui sont pris 10 mois de sursis, une personne qui s'est pris 12 mois de prison, enfin, qui s'est pas pris, hein, c'est la réquisition du procureur. 12 mois de prison ferme avec interdiction de détenir une arme pendant 5 ans, et deux personnes, 10 mois de sursis avec interdiction de détenir une arme pendant 5 ans. Donc les avocats, au cours des 3 heures de plaidoirie, ont dénoncé, comme en première instance, un dossier erroné, caricatural et lacunaire, malgré, donc, je le disais tout à l'heure, une enquête tentaculaire et menée à charge. Donc il est clair que l'association de malfaiteurs de Burr a beau être écartée, son spectre continue de peser, et on en sera complètement débarrassé, donc lors de la relaxe totale des personnes accusées. Et donc le délibéré aura lieu le 26 janvier. Donc voilà. Donc il faut patienter jusque là pour avoir la réponse de cette affaire qui dure depuis déjà pas mal d'années et qui pèse beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les épaules de plein de collectifs et de plein de personnes et de tout un mouvement. Voilà. Alors évidemment, je n'avais pas préparé le voilà, mais ça va bien se passer.
Prenons une ville, Lyon. À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus...
Nous agissons avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable.
Vous voyez, la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici dans les agences de la fermeture de ces
bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les zadistes, en chantant résiste.
Eh oui, on a bien besoin de résister parce que comme ça ne vous l'aura pas échappé, on est autour du 8 décembre. Eh oui, on arrive quand même à vous faire des infos même si on est au milieu du périmètre de sécurité de la projection des lumières de Lyon. Et voilà, comme chaque année, c'est ce grand truc touristique là qui fait que on peut plus vraiment venir dans le centre-ville parce qu'il y a 3-4 attractions autour des lumières qui doivent venir faire, je crois cette année, environ 2 millions de touristes. Et la ville de Lyon communique et nous dit aussi que par exemple, c'est censé être une fête des lumières à hauteur d'enfants. Ok, mais du coup, heureusement, on a le collectif Jamais Sans Toi qui est là pour nous rappeler que il y a encore plusieurs centaines d'élèves qui sont condamnés à dormir dehors et qui vivent une saison en enfer pendant que les lumières brillent dans le centre-ville. Et du coup, c'est une semaine qu'a choisi le collectif Jamais Sans Toi pour se mobiliser particulièrement
et malheureusement encore et encore et encore faire entendre un discours qui n'est jamais suivi des faits, à savoir que beaucoup d'enfants scolarisés dans la métropole de Lyon n'ont pas de logement. À Lyon, les lumières du 8 décembre n'ont pas le parfum de la cire des bougies, ni la chaleur ou le crépitement d'un feu de bois. Elles semblent devenues indifférentes et insensibles. À l'heure où les visiteurs affluent pour célébrer la protection passée d'une sainte, il est important de révéler à tous et toutes la terrible vulnérabilité de nombreux enfants de notre ville. Alors là, j'ai commencé à vous lire le communiqué de Jamais Sans Toi, et je ne suis pas sûre que les gens affluent pour célébrer la protection passée d'une sainte. Mais passons. Pourtant, M. Olivier Klein, ministre délégué au logement, s'est engagé devant la représentation nationale et les associations à ce qu'aucun enfant ne dorme à la rue cet hiver. C'est horrible cette phrase, j'ai l'impression qu'on l'entend depuis des dizaines d'années. Et depuis des dizaines d'années, de plus en plus de personnes dorment à la rue. Vous pouvez aller lire d'ailleurs sur internet, les questions d'hébergement sont de plus en plus précaires pour tous et toutes par ailleurs. Le 10 novembre, dans un courrier adressé au préfet, il affirmait encore que c'était sa priorité de permettre l'identification rapide de solutions pour tous les enfants sans domicile, quel que soit leur statut administratif. Des paroles, des paroles, des paroles, et à ce jour, le collectif Jamais Sans Toit recense 281 enfants sans toit. Parmi eux, 35 ont moins de 3 ans, dont 136 dans la seule ville de Lyon, pourtant dotée d'un plan zéro enfant à la rue, et 74 à Villeurbanne. Alors certes, les plus chanceux, entre gros guillemets, d'entre eux peuvent compter une nouvelle fois sur la mobilisation de la communauté éducative, parents d'élèves, enseignants, personnel périscolaire, et les gestes de solidarité des voisins et des voisines, des commerçants et des commerçantes pour leur porter secours. Ainsi, 4 enfants sans toit sur 10 des villes de Lyon et Villeurbanne trouvent refuge chaque nuit dans 18 établissements scolaires. Ils peuvent alors dormir au chaud, en toute sécurité, en attendant que les pouvoirs publics leur trouvent une solution d'hébergement, comme la loi les y oblige, et ce que, manifestement, ils ne font pas. À l'occasion de la Fête des Lumières, les comités de soutien fédérés au sein du collectif Jamais Sans Toi ont donc imaginé un itinéraire bis de déambulation à travers la ville. Donc toute cette semaine, il y avait un circuit avec ces mots inscrits sur des banderoles faites à partir de vieux draps en coton qui évoquent la chaleur d'un lit, d'un moment de repos. Il est urgent de faire la lumière sur ces situations dramatiques trop souvent dérobées au regard du reste de la population. De montrer qu'au-delà de la féerie, des centaines d'enfants vivent dans des conditions indignes et dangereuses. L'envers du décor doit être dévoilé. Ces enfants sont abandonnés par l'État qui a l'obligation légale de protéger les plus démunis, mais qui n'assume pas sa mission de mise à l'abri. Donc le collectif Jamais Sans Toit dit à nouveau que la générosité citoyenne a ses limites et ne peut se substituer plus longtemps au principe de solidarité inscrit dans la loi. Donc il y a eu des goûters en fait qui ont été organisés un peu chaque soir de la semaine dans plein d'écoles différentes. Il y a eu aussi 2 rendez-vous mardi 6 décembre, rendez-vous au cabinet du président de la métropole. Et hier, jeudi 8 décembre, le rassemblement n'était pas devant une école, mais était devant la mairie de Villeurbanne. Toujours pareil, en fait, pour demander à la préfecture en fait, de faire appliquer la loi. Et là, qu'est-ce qu'a répondu la mairie ? La mairie de Villeurbanne m'a répondu qu'elle négocie avec la préfecture, que la préfecture va mettre en place un lieu pour loger des familles pendant les vacances de Noël. Ah oui, parce que pour vous dire qu'évidemment les familles, elles sont hébergées à l'école, mais l'école elle ferme pendant 2 semaines, et qu'il n'y a pas dans toutes les écoles la possibilité de prolonger cet hébergement pendant les vacances scolaires. Mais pour l'instant, rien de concret. Et voilà, ben c'était... En fait, ça me rend triste de vous parler de ce collectif Jamais Sans Toi, année après année. Et j'ai l'impression qu'année après année, on voit qu'il se structure. Maintenant, il n'y avait pas du tout autant d'écoles qui hébergeaient des enfants il y a quelques années. Et que je ne suis pas sûre que ce soit une bonne nouvelle que c'est sa structure. C'est une bonne nouvelle en termes de solidarité, bien sûr. C'est absolument pas une bonne nouvelle en termes de ce que l'État, la PREF et la métropole devraient mettre en place pour assurer un abri à tous et toutes.
Et on fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est, oui, en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Et donc ça commence dès ce soir, l'agenda, puisque le Casdal vous invite à une cantine et une projection. Donc le Casdal, c'est un squat qui est au 221 rue de Créqui, donc dans le 3e. Donc il vous invite à une cantine vegan. Donc ça c'était à partir de 19h, mais peut-être qu'il reste encore un petit peu. Et ensuite, il y a une projection à partir de 21h. Donc, tout sera à prix libre. Et la projection, c'est quoi? C'est le film Pride, qui date de 2014, qui se déroule en 84 en Angleterre et qui est basé sur une histoire vraie, les luttes des mineurs, des activistes queer qui y seront présentés, où les deux combats se rejoignent et défendent ensemble leurs droits. Le film sera en anglais et avec bien sûr des sous-titres en français.
Et ensuite dimanche, il y a un rassemblement, enfin non, une réunion publique qui a lieu à l'annexe, et c'est pour le lancement d'un collectif de livreurs lyonnais, des livreuses lyonnaises, en présence d'un livreur Uber Eats en lutte qui lui est à Paris. Du coup, c'est le dimanche, ce dimanche-là, à 14h30, au 27 rue Salomon-Reynage. C'est dans le 7e, ça s'appelle l'annexe. Et voilà, si vous voulez vous organiser pour lutter pour vos droits en tant que livreur Uber Eats.
Et bien sûr, mardi, vous n'allez pas louper, c'est le 13-12, c'est le ACAP Day. Il se passe plein de choses ce jour-là. Déjà, big up à Emilio, bien sûr, qui soufflera sa première bougie. Après, on re-rappelle que c'est le ACAP Day. Et enfin, le soir, quand vous aurez digéré toutes ces informations, il y a une soirée de soutien contre le Lyon-Turin à l'Amicale du Futur. Oui, oui, vous êtes bien en 2022. La ligne ferroviaire Lyon-Turin est un projet donc datant des années 90 pour le transport de marchandises et de personnes. Depuis plus de 20 ans, des groupes se mobilisent côté italien et français pour dénoncer ce grand projet inutile. Donc rendez-vous à l'Amicale du Futur à 18h30 pour échanger avec des collectifs qui se mobilisent contre le projet ferroviaire Lyon-Turin. Et le repas est vers 20h30 pour se donner des forces. De souvenirs, l'Amicale du Futur, vous le trouverez rue Sébastien Griff, de la boucherie, en face du coiffeur.
Non, je pense qu'on peut trouver comme ça. Ouais. Ensuite, on se téléporte le jeudi 15 décembre, c'est ça?
Oui.
Ah non, c'est à toi peut-être?
Ah non, c'est à toi.
Ah non, merde, ouais, parce que j'ai un numéro, mais je ne sais pas si c'est le bon. Bref, donc il y a l'épicerie gratuite de l'illégalité qui recrute. Et donc pour ça, ils vont faire une réunion de présentation. Donc après plus de 2 ans d'existence, cette épicerie est en pause depuis novembre dernier suite à des difficultés d'approvisionnement, mais aussi au manque de bras. Donc on espère pouvoir reprendre, donc le 11 c'est eux, reprendre en janvier prochain. Mais pour ça, ils ont besoin d'aide et donc ils vous donnent rendez-vous le 15 décembre à 18h pour un moment de présentation de l'épicerie et de rencontre. Donc c'est au 6 rue de l'Égalité à Villeurbanne, donc c'est vers le métro QC.
Et toujours à l'illégalité, le lendemain, il y a une soirée de soutien à l'association Idir Espoir et Solidarité. Donc cette association, elle est née suite à la mort de Didier Médérès à la maison d'arrêt de Lyon-Corba le 9 septembre 2020. Depuis, ses proches luttent pour obtenir vérité et justice. Il et elle font aussi des permanences de soutien et conseils aux proches de détenus, tous les mercredis de 14h à 18h à l'illégalité. Donc vous pouvez aller à l'illégalité tous les mercredis de 14h à 18h pour obtenir du soutien juridique, voilà, et aussi pour la soirée de soutien. Et donc comme l'a dit juste avant, l'illégalité c'est aux 4 rue de l'égalité, 6 6 rue de l'égalité,
attends je relis mon papier, 6 rue de l'égalité,
pardon, donc c'est au métro Cuisset, voilà, et tous les bénéfices de cette soirée ils seront reversés à leur collectif.
Et c'est fini l'agenda.
Et c'est fini l'agenda.
ACAP.
Bonjour, je m'appelle Lily et j'ai 8 ans. Je voudrais savoir ce que ça veut dire ACAP.
Radio Canu, la plus nulle des radios.
Alors, ACAP, on l'a dit tout à l'heure, ça voulait dire joyeux anniversaire, Bijou.
Anniversaire.
Voilà, donc ça sera le 13-12 où il y a une superbe fête aussi. Et est-ce qu'on a eu des appels sinon
Alors on en a eu, mais ils sont chelous.
Ah bon.
Il y en a un qui veut dire
histoire de malfaiteur.
Associons les copains pour amener les banderoles.
Ok.
Tout bon. À fait. Ben, très bien. Et un autre, les avocats condamnent l'allumage des bougies.
Okay. Ils ont bien raison.
N'hésitez pas à nous appeler hein, pour améliorer la.
Mais voilà, ouais, ouais. En tout cas, maintenant, nous, on va vous laisser sur ces ACAB merveilleux et fabuleux. Et on va vous laisser avec du son et du noise. Pollution, c'est ça? Voilà, il est à côté de moi, il est en train de foutre le bordel d'ailleurs.
Et oui, c'est l'homme orchestre et... de Radio Canu.
Et du coup, je sais pas ce que je te lance en fait là.
Ah, quel générique?
Bah, si tu veux, hein, on avance.
1, 2, 3.
Au revoir. On a pas dit au revoir.
On a été le premier groupe à être.
On peut dire au revoir sur on peut dire au revoir sur le générique de Noise Pollution.
La classe.
À la semaine prochaine du coup.
Au revoir, au revoir.
Bonne soirée.
On a été le premier groupe à être banni d'Angleterre. Leur musique était jugée offensante par les associations parents.
Les paroles de certaines chansons peuvent-elles être à l'origine de troubles de l'ordre public? C'est en tout cas la crainte de la Confédération nationale des associations familiales catholiques.